Bienvenue à Dis-moi, une série de podcasts présentés sur Mitsu Magazine avec des gens qui m'inspirent et que j'ai envie de mieux connaître en votre compagnie. Aujourd'hui, j'ai en studio Emma, qui est une auteure incontournable, ingénieure de formation, informaticienne également, qui a mis en lumière le concept de la charge mentale il y a quelques années et qui revient à la charge avec ce nouveau livre, La charge émotionnelle. Voici Emma. Salut Emma!
Salut!
On t'appelle seulement Emma, t'as un nom de famille?
Emma ou Emmaclite, c'est mon nom quand on m'accueille quelque part, on a besoin d'un nom de famille, et ben je dis Clite comme clitoris. Et du coup, c'est très rigolo parce que les gens, ils m'attendent avec un panneau « Madame Clite, Madame Clite
!» Mais c'est pour ça que les logos dans tous tes livres, Emma, tu es la créatrice, ou c'est toi qui as mis en lumière le concept de la charge mentale il y a quelques années, et sur tous tes livres, t'as un œil qui est comme un second regard sur les choses, mais qui est en fait l'image d'un sexe féminin. Et mes filles trouvaient ça vraiment bizarre ce week-end, d'ailleurs, que je laisse traîner ça sur la table de la cuisine. Puis je dis, ben oui, mais c'est ça. En même temps, c'est le sexe féminin.
Bah oui, puis je trouve qu'on n'a aucun problème à dessiner des pénis partout. Les garçons, ils commencent au collège. Enfin, quand en France, en tout cas, c'est à la période du collège. On a 11 ans, ils commencent à dessiner ça. Et nous, on n'en parle pas de notre vulve et notre clitoris. On les dessine pas. Et donc, je pense qu'il est temps un peu de changer ça.
Quand est-ce que tu as commencé à dessiner des clitoris, toi?
Et là, il n'y a pas longtemps. Parce que moi, à chaque fois que je fais une bande dessinée sur un sujet, c'est parce que je viens de découvrir le sujet. Donc, moi, je me documente. Je suis féministe depuis que j'ai 30 ans seulement. Donc je me documente, je découvre un sujet, je le dessine dans l'année qui suit. Et j'ai découvert le clitoris dans sa forme entière vers 28 ans.
Comment on devient féministe à 30 ans? Qu'est-ce qui a fait changer les choses pour toi?
Ce qui a changé pour moi, c'est déjà je suis devenue maman à 30 ans. Et j'ai trouvé ça super injuste, la maternité pour les femmes. En France, on est complètement abandonné. Le père, il retourne au travail tout de suite. On a un tout petit congé maternité. Et en plus, donc, moi, donc, j'avais 10 semaines de congé maternité. Je suis retournée au boulot après. Et mon boulot, c'était dans une entreprise très toxique, qui était pas du tout favorable aux femmes. Où, du coup, on m'a pas facilité les choses. Il y avait beaucoup d'agressions sexistes. Il y avait du harcèlement sexuel. Et j'ai compris qu'au début, je pensais que c'est parce que je me débrouillais mal. Et en discutant avec des amis militants, je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais une femme et qu'on était nombreuses dans ce cas-là et que la solution passait par les luttes féministes.
C'est toi qui as révélé ou mis en lumière plutôt le concept de la charge mentale. Comment c'est arrivé, cette révélation-là, dans ta vie à toi?
Dans ma vie à moi, c'est justement parce que je venais d'être maman, j'ai repris le boulot et je me suis rendu compte, alors qu'on avait une répartition des tâches à peu près égale avec mon copain, que j'étais épuisée alors que lui, il s'en sortait à peu près. Il arrivait à rester plus tard au boulot, à rester compétent, quoi. Et j'ai vu passer un article avec ce mot, charge mentale, et je me suis dit, mais c'est ça, je suis fatiguée, c'est pas parce que je fais plus de choses que lui, c'est parce que c'est moi qui pense à tout, même les choses qu'il fait, c'est moi qui ai pensé avant. Et du coup, j'ai essayé d'en parler autour de moi. Ça a pas trop pris. Les articles, souvent, c'est très long, c'est très technique. Les gens lisent pas. 6 ans plus tard, j'avais mon blog et je faisais des BD. Je me suis dit, c'est le moment de dessiner ça. Et du coup, je l'ai dessiné. Et je m'attendais pas à ce que ça fasse le tour du monde à ce point-là, mais voilà.
Quand on crée un succès comme celui-là, comme il fallait le dire, comme le concept de la charge mentale, est-ce que on a beaucoup plus de pression d'écrire autre chose?
Ouais, je fais beaucoup plus attention à ce que je fais maintenant qu'au début. C'est-à-dire qu'au début, je dessinais un peu des choses au moment où elles me passaient par la tête. Je mettais beaucoup plus de colère. C'est un peu mon exutoire aussi. Je mettais beaucoup plus de colère dans ce que j'écrivais. Maintenant, je fais attention parce que ma communauté, elle est moins politisée. Elle est beaucoup plus étendue, ce qui est super. Mais du coup, je sais qu'il faut que je présente les choses comme moi j'aurais aimé les entendre il y a 10 ans. Et pas maintenant, quand je lis des textes pleins de colère, moi je les comprends parce que je suis militante, je suis très engagée. Mais il y a 10 ans, j'aurais lu ça, je me serais dit, mais elle est hystérique, justement, comme on dit sur les femmes qui s'énervent à tort. Et du coup, il faut juste que je prenne le temps aussi. Les gens, ils ont besoin de temps pour se politiser, pour comprendre les choses.
De la charge mentale dans le premier album, on passe à la charge émotionnelle dans le troisième, mais il y a quand même un lien intéressant. Puis moi, je me dis que tu m'as peut-être sauvé 5 ans de psychothérapie que je n'ai pas encore entamée, mais vraiment, tu as mis le doigt sur des choses importantes. Parle-nous de la charge émotionnelle.
Moi, la charge émotionnelle, je décris ça comme le souci de mettre tout le monde à l'aise, matériellement, mais surtout psychologiquement.
Le souci des femmes.
Ouais, le souci, c'est principalement comme la charge mentale portée par les femmes. Et du coup, ça veut dire toujours essayer de décrypter les besoins des autres, à quoi ils s'attendent de notre part et de s'y conformer. Et donc, du coup, on va beaucoup écouter les autres, prendre soin d'eux quand ils vont pas bien, essayer de leur créer un environnement de vie confortable. Et ça, c'est plutôt chouette. Le problème, c'est que souvent, c'est pas réciproque. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle dans le livre le pouvoir de l'amour. Toutes ces petites attention, tout cet environnement confortable, ça a l'air comme ça un petit peu superficiel, un petit peu anodin, mais en vrai c'est ce qui donne beaucoup d'énergie aux hommes, donc pour se lancer dans la sphère publique, pour créer, pour prendre des responsabilités professionnelles, pour se développer personnellement. Et du coup, toute cette énergie qu'ils mettent vers l'extérieur, ils ne le retournent pas à leur partenaire.
C'est-à-dire que nous, on donne à nos hommes beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, puis que ça leur donne l'énergie de poursuivre vers l'avant, vers l'extérieur, ouais. Mais qu'on reçoit pas ça.
On n'a pas de retour, ouais.
C'est difficile à lire. Oui, comment tu t'es rendu compte de ça toi-même dans ta vie?
J'avais lu quelques articles dessus. Alors souvent c'était un peu mêlé, charge mentale, charge émotionnelle. Pour moi c'est quand même pas la même chose. C'est plus que ce qui est du domaine de l'affectif. Et après je suis allée sur des forums de femmes, de mamans, lire un peu les messages. Et toutes elles disaient la même chose. C'est quand je lui parle dans la journée, il me répond pas. J'ai fait ça pour lui, il m'a pas dit merci. Il se rend pas compte de tous les efforts que je fais. Il m'écoute pas quand ça va pas au boulot, etc. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est vraiment des choses que nous, on fait naturellement, de se demander de quoi l'autre a besoin et de s'y conformer. Et on attendrait que les autres fassent la même chose pour nous et ça arrive pas. Et c'est pour ça que moi, je pense que souvent, les coiffeuses, les esthéticiennes, elles font un peu ce travail à la place des maris, d'écouter les femmes. Et du coup, c'est en échange de compensation financière.
Nous, on paye,
ouais, nous, on paye.
Pour avoir l'amour ouais. Ou la reconnaissance ouais. Ou l'écoute, donc.
L'écoute de l'attention, des câlins, voilà.
Donc, on va se faire faire une manucure pour avoir cette attention que l'on désirait avoir à la maison. Ces petites attentions-là, c'est dû à quoi, tu penses?
Moi, je pense que c'est dans la grande différence d'éducation qui est donnée aux filles et aux garçons, parce que les petites filles, très tôt, on va leur apprendre à se conformer aux autres, à savoir décrypter de quoi les autres ont besoin et à faire ce qu'on attend d'elles. Et les garçons, au contraire, on va plus les encourager à s'imposer, à être courageux, faire du bruit, ce genre de choses, et on va les empêcher très tôt de comprendre un peu la finesse des émotions, de savoir décrypter les visages, de savoir s'adapter à l'autre. Et ça, je trouve ça bien dommage.
Comment peut-on changer la manière, donc, d'éduquer nos garçons?
Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est fait actuellement très tôt et qu'il faut arrêter de faire, c'est que, en gros, on divise les émotions en deux et on donne la moitié aux filles, la moitié aux garçons. Du coup, on va dire aux filles qu'elles peuvent être sensibles, qu'elles peuvent être empathiques, qu'elles peuvent pleurer, avoir peur. Et puis, on va plutôt dire aux garçons que pleurer, avoir peur, c'est pour les filles. Donc, c'est très dégradant pour eux de montrer ces émotions et on va leur laisser la colère et puis la joie, c'est à peu près tout. Et je pense que les garçons, ils manquent d'outils émotionnels pour s'insérer dans la société, pour interagir de façon empathique avec les autres. Donc moi, je pense qu'il faut faire très tôt, c'est expliquer toutes les émotions, il y en a 7, un principal, aux filles comme aux garçons, et dire que à chaque situation, il y a plusieurs émotions qui vont surgir, elles sont toutes utiles, on ne peut pas les remplacer ou les échanger comme ça, et il n'y en a aucune qui est honteuse ou qui est interdite.
Donc, à partir de la charge mentale où la femme veut faire beaucoup pour sa famille, il y a la charge émotionnelle où elle veut faire beaucoup pour faire plaisir, pour donner, c'est un don de soi. Tu as des illustrations où tu montres la femme qui a acheté des bas pour son mari ou les petites culottes pour son mari parce qu'elles étaient trouées, les siennes étaient trop vieilles, sans que lui l'ait demandé. On en fait beaucoup sans qu'on nous le demande, tu penses?
Oui, je pense que on a complètement intégré ça comme étant notre rôle et on pense aux autres tout le temps. Et du coup, quand moi la première, hein, quand je vois quelque chose en solde qui va à mon copain, bah, je vais lui acheter en fait parce que je me dis ça serait bête qu'il rate le truc et que du coup il paye ça à plein prix dans 6 mois. Et c'est quelque chose en général, les hommes ça leur passe même pas l'esprit. Ils voient quelque chose dans une vitrine, ils vont pas penser que ça ferait plaisir à leur conjointe. Donc du coup, c'est toujours un petit peu à sens unique. Et puis, comme on le fait sans qu'on nous le demande, bah, je pense qu'il n'y a pas la notion d'effort. Je pense que les hommes ont vraiment l'impression que c'est naturel chez nous et que du coup, c'est pas vraiment un travail. Alors moi, je présente ça comme un travail,
C'est que
que
c'est
ça ne nous coûte
épuisant.
pas. Voilà, c'est fatigant et ça mérite un retour, en fait. C'est juste ça. C'est ça, les relations humaines. On fait des choses pour les autres, ils font des choses pour nous. Et comme on le fait de façon naturelle, sans même qu'on nous ait demandé, bah, il n'y a pas de retour parce qu'on a l'impression que ça fait partie de je sais pas, notre instinct peut-être, ou quelque chose comme ça.
C'est définitivement instinctif. Tu vois, chez moi, j'adore quand mon mari est malade. Parce que je peux lui venir en aide, tu comprends? Puis là, mon amour, je me sens encore plus amoureuse à ce moment-là quand il a le rhume. C'est complètement ridicule, mais en même temps, c'est vrai que ça appelle aussi à la mère, et ça, c'est pas nécessairement bon dans la chambre à coucher, surtout s'il a le rhume.
Oui.
Mais tu vas aussi dans cette sphère-là de notre vie intime au couple.
Oui, parce que effectivement, ça c'est beaucoup des choses que j'ai lues sur les forums. Les femmes qui disaient j'ai l'impression d'être la mère de mon conjoint, en fait. C'est-à-dire que il y en a certaines, c'est même elles qui prennent les rendez-vous chez le médecin pour leur conjoint. Elles en sont arrivées à faire quasiment autant de choses pour eux que pour leurs enfants. Et elles ont dit bah moi j'ai pas d'attirance sexuelle pour mes enfants, et du coup j'ai plus d'attirance sexuelle non plus pour mon conjoint. Donc il est temps de je pense, revenir à un rythme de vie entre adultes autonomes et responsables des deux côtés. Et du coup, pour la sexualité, ça va un petit peu plus loin parce que souvent les femmes dans la sexualité hétérosexuelle, elles sont dans le service aussi. C'est-à-dire que on apprend très jeune comment faire plaisir aux hommes, on sait. Et du coup, souvent dans un rapport sexuel hétérosexuel, bah, la fin, c'est au moment où l'homme a un orgasme. Et du coup, la femme a pas d'orgasme la plupart du temps. Mais en plus de cette concentrée sur le plaisir de l'homme, elle va devoir ensuite le rassurer sur ses performances et du coup, bah, ne pas dire que ça n'a pas été satisfaisant pour elle et le rassurer, lui dire que, alors soit qu'elle a eu un orgasme et mentir, soit qu'elle n'en a pas, mais finalement que c'est son plaisir à lui qui est le plus important pour le rassurer. Et je pense que là encore, on est en plein dans le travail émotionnel parce que plaisir physique plus le sentiment d'avoir bien fait et d'avoir fait plaisir à son tour, alors que c'est même pas forcément vrai.
Les sexologues le diront aussi que dès qu'une femme s'efface trop, que son désir également va baisser. C'est que on a l'impression qu'on met une espèce de tampon sur nos pulsions, sur nos émotions pour pouvoir faire plaisir à tout le monde, pour ne pas déranger, parce que les gens autour de nous ont tellement les enfants ont des émotions fortes, l'homme a souvent des émotions très fortes. J'ai l'impression que plusieurs femmes, puis là encore, là, faut pas généraliser, mais vont tempérer leurs propres émotions. Puis à ce moment-là, si tu tempères tout, ben l'amour et le désir sont tempérés aussi. Et
Ouais.
c'est incroyable quand tu comprends ça, là, c'est ça fait
Ouais,
une
je
grande
suis tout à
différence.
fait d'accord avec cette analyse. C'est par exemple le fait que bah, les femmes, quand elles font le ménage, elles le font presque en souriant, et c'est pas parce qu'on aime ça, mais c'est parce que on va pas imposer notre mauvaise humeur ou le fait que ça soit pénible ou fatigant à tout le monde. Alors que quand les hommes le font, bah, ils font en sorte que ça se voit, voilà, qu'on dise merci, qu'on les félicite pour l'avoir fait. Et oui, dans la famille aussi, on a souvent voilà des pères qui vont être très autoritaires sur sur les enfants, il va y avoir des disputes, et souvent les mamans, elles font un peu tampon entre les ouais. deux, en essayant de, voilà, elles vont beaucoup être dans l'éducation bienveillante, en essayant d'appliquer des principes, mais du coup, souvent, elles vont appliquer des principes d'éducation bienveillante, en douceur, aux enfants, et puis elles vont un peu ménager le père en lui, en l'obligeant pas trop à faire ses efforts non plus, alors en compensant, voilà, les colères et les disputes. Donc c'est vrai que c'est un travail, permanent et où on a tendance à s'oublier un petit peu finalement.
Ou s'éteindre.
Ouais, bah oui.
Qu'est-ce que ça a changé en toi d'écrire ce livre-là?
Alors moi, le truc que j'ai changé, parce que moi je veux pas arrêter de prendre soin des autres, c'est ce que j'explique dans le livre, j'estime que c'est une grande qualité qu'ont les femmes et que les hommes gagneraient à s'approprier aussi, je veux pas m'en débarrasser, je suis toujours contente de penser aux anniversaires des gens, de les appeler, de garder le contact, d'avoir des attentions et d'être quelqu'un de gentil finalement et de bienveillant, en tout cas j'essaye. Mais par contre, j'ai arrêté de rétrécir ma propre zone de confort au profit de celle des autres. Et ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose qui me dérange, avant, j'avais tendance à surtout ne pas le montrer, voire même le conforter en rentrant un peu dans son jeu. Ça, je le fais plus du tout. Quand quelqu'un fait quelque chose qui me dérange, et ben je... sans me fâcher, mais en fait, je montre que ça me fait pas rire, je rentre pas dans le jeu. Et souvent, les gens battent en retraite, d'eux-mêmes, ils arrêtent de faire ces comportements.
As-tu un exemple?
Oui, alors ça va être par exemple, moi j'avais dans mon ancienne entreprise un patron qui faisait toujours des blagues sexuelles. Et à l'époque j'étais gênée, ça me gênait, mais en fait, comme tout le monde rigolait autour, moi je rigolais aussi pour un peu ne pas le vexer, ne pas le mettre mal à l'aise. Et quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, je me suis dit, mais là je suis en plein travail émotionnel, c'est-à-dire que moi je me sens dérangée par ce qu'il fait, et non seulement je le montre pas, mais en plus je l'encourage. Et donc j'ai complètement arrêté de rire à ces blagues, et je le regardais juste de façon stoïque, et finalement il se sentait mal, hein, et il a arrêté de faire ça.
Il y a un autre concept que celui-là, heureusement, tu le sais pas toi qui l'a mis en lumière, mais c'est le monde entier. Une partie du monde, en tout cas, la culture du viol. Tu reviens là-dessus, tu en parles dans ton troisième bouquin, et j'ai réalisé quelque chose en te lisant. On a commencé à parler de la culture du viol beaucoup dans l'environnement des universités. Mmh. Et pourtant, tu mets le doigt là-dessus, ça commence beaucoup plus tôt à la petite école et même avant. Mm. Et toi, tu parles de ta nourrice, donc, qui était ta gardienne, chez qui tu allais dîner sur l'heure du lunch, et puis pendant la semaine. Et puis c'est là que pour la première fois, il y a eu un homme qui t'a fait des pressions sexuelles. Mm. C'est quelque chose d'en parler dans une bande dessinée aussi.
C'était dur pour moi de faire cette bande dessinée parce que quand je dis dans la bande dessinée, je dis donc en fait ce monsieur, j'allais manger là le midi et voilà, il n'a pas fait d'attouchement, mais il me collait quand même, il mettait son bras autour de moi et clairement il parlait de se marier avec moi, donc il y avait quand même pas d'intimité.
Il y avait une certaine pression.
Et moi je sentais que c'était pas normal et que j'étais mal à l'aise, mais juste voilà, ma nourrice elle me disait ah il t'embête un peu, voilà c'est les hommes, ils sont comme ça, comme si c'était quelque chose de normal. Et à cette époque-là, quand j'étais sortie de ce repas, donc dans la bande dessinée, je dis j'avais mal au ventre. Mais ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que je suis retournée chez cette nounou-là pendant 2 ans, donc j'étais en cours moyen, donc j'avais 8 et 9 ans, j'avais mal au ventre tous les jours avant d'y aller. Et j'en ai jamais parlé à mes parents parce que je me suis dit apparemment c'est normal. Du coup, qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai rien à dire. En fait, il faut juste que je fasse avec. Et ouais.
Mais c'est là où on s'habitue à se taire.
Bah oui, aussi. On s'habitue à faire avec. Et moi, j'ai eu plein de témoignages qui sont tombés après avoir fait cette bande dessinée de femmes qui avaient parlé et à qui on a dit... Alors, c'était souvent des oncles, des instituteurs, le curé du village, voilà, des proches, quoi. C'était pas un inconnu. C'est pour ça que je dis, le mythe de l'inconnu, il faut s'en débarrasser. Et quand elles ont parlé, on leur a dit, ne fais pas de vagues, n'en parle pas, parce que ça va rendre des gens tristes, parce que ça va gêner le fonctionnement de la communauté, en fait.
Et c'est ça, la culture du viol.
Bah, la culture du viol, en fait, c'est qu'on considère que les violences sexuelles, c'est quelque chose qui existera toujours, et que c'est aux femmes de se débrouiller pour les éviter. Donc on déresponsabilise les agresseurs, et puis on responsabilise les femmes de l'agression qu'elles ont subie. Et du coup, ça va être, on va leur dire de surveiller leur tenue, de surveiller les endroits où elles sortent, leur consommation d'alcool, pour échapper au viol, comme si le viol, c'était un orage ou un truc qui vous tombe dessus sans cause, alors que derrière, il y a quand même un humain qui a commis ça. Et c'est sur ces humains-là qu'il faut travailler, pas sur les victimes.
Tu fais une belle tournée ici au Québec pendant toute la semaine. À la fin de la semaine, tu vas être en Estrie, au Salon du Livre là-bas. On est juste à côté, on est voisins des Américains. Je peux te demander ce que tu penses justement de l'élection du juge Kavanaugh, entre autres.
Ben, je pense que c'est dans la lignée de la politique de Trump. Hein. Il crache au visage des femmes de façon très claire. Et là, moi, j'ai vu des femmes en larmes. Qui ont été violées, qui militent depuis longtemps pour que ça n'arrive pas à d'autres femmes ou à leurs filles, et qui voient ça, pour moi, c'est une humiliation, quoi. Donc, je pense qu'il va se passer des choses derrière. À mon avis, elles vont pas se laisser faire.
Tu penses, hein?
Oh, bah oui.
So, là, grab them by the pussy, we're gonna grab them by the balls.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faut, justement, pour qu'une société puisse... que les femmes puissent être entendues dans une société?
Moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est quand même super, parce que c'est là qu'on est allé pour parler de MeToo, pour raconter toutes les agressions qu'on a subies. On vit encore dans un patriarcat, donc c'est un monde qui est dominé médiatiquement, économiquement par les hommes. Je pense pas qu'on arrivera à se faire entendre par les mécanismes qui ont été installés pour nous faire tenir, enfin pour nous faire rester en place, en fait. Il faut qu'on trouve d'autres endroits pour nous exprimer. C'est pour ça que moi, je suis allée sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que les femmes, elles ont parlé aussi de MeToo sur les réseaux sociaux. Donc, à mon avis, ça, c'est un début. Après, il faut qu'on soit solidaires, et souvent les gens disent sororité parce que c'est un peu à la mode sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, mais solidaire, ça veut dire se soutenir entre femmes, se croire quand on raconte des choses, et accepter les choix de chacune, c'est-à-dire savoir avancer avec des femmes, même si nous on fait pas les mêmes choix de vie, même s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, avancer de l'avant sur les sujets sur lesquels on est d'accord pour créer une vraie force collective.
Mais tu fais partie de la force. Merci beaucoup, merci. Emma, d'être déplacée aujourd'hui chez Dasmo. C'est un grand plaisir, un honneur pour moi de te rencontrer.